Je suis donc linguiste et ma pratique n'est peut-être pas une pratique de croyance. Par contre, ma pratique est une pratique de discours et d'analyse de discours. Moi, ce qui m'intéresse et pourquoi j'ai accepté l'invitation, c'est que cette pratique de discours m'a conduit à aller dans d'autres sciences du discours comme le droit. M'occuper pendant quelques années de la Ligue des droits de l'homme. Puis j'ai été m'occuper aussi pendant quelques années du Centre d'action laïque. Alors c'est assez bizarre de confier l'étape croyance à un ancien vice-président du Centre d'action laïque. Quoique, pas de mon point de vue. Je vais prendre croyance dans un sens relativement large, même si fatalement au cours de l'exposé il sera restreint par ses usages les plus courants, parce qu'évidemment, quand on entend croyance dans le champ social aujourd'hui, on entend beaucoup croyance religieuse, et on entend beaucoup croyance religieuse dans la mesure où elles empêchent le champ social de s'organiser de manière harmonieuse. Enfin, c'est ce qu'on dit. Donc la croyance ne devient pas une composante, la croyance ne devient assurément pas une solution, la croyance devient une composante du problème social. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans la question de la croyance, c'est plutôt la question de l'appartenance à un groupe et la manière dont l'appartenance à un groupe facilite ou non, empêche ou non, le fait de vivre ensemble. Ce qui, au niveau de la pratique des soins, qui n'est pas la mienne, certes, mais sur laquelle je me suis aussi interrogé, parce que socialement, on a été aussi amené à s'interroger à cela, c'est le contact des différentes croyances dans le milieu des soins. Je ne vais pas traiter cette question-là. Je vais essayer de traiter cette question dans un cadre plus large, justement le cadre plus large du vivre ensemble, de comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. En fonction des différents critères d'appartenance qu'on choisit, la croyance n'en étant qu'un parmi d'autres. Et du coup, essayer de voir les conséquences que ça peut avoir sur la manière dont on vit ensemble ou dont on organise socialement le vivre ensemble. Et donc, c'est à travers les discours, les droits de l'homme, la question de la laïcité que cette question m'interpelle, m'intéresse, dans un esprit que je veux de la plus grande ouverture qui soit. Je ne suis pas un laïc fermé, je suis un laïc dont certains disent que je suis partisan d'une laïcité politique. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie une laïcité qui veut simplement que l'espace public ne soit pas confisqué par quelque option que ce soit, pas même par l'option laïcarde au sens athée, agnostique du terme. Une vraie option de laïcité politique vise à la coexistence de tous les groupes, de toutes les croyances dans l'espace public. J'aurai à m'expliquer sur la notion d'espace public tout à l'heure, mais dans l'espace public, en telle sorte que chacun puisse y vivre sans y subir aucune discrimination, puisse vivre le cas échéant et y vivre le cas échéant sa croyance sans aucune discrimination, mais il faut effectivement qu'aucune des croyances, aucune des options, quelles qu'elles soient, ne puisse avoir une quelconque hégémonie sur les choix des gens. C'est ça la laïcité, au sens social du terme, c'est la non-imposition d'une quelconque option, quelle qu'elle soit, surtout pour ceux qui ne la partagent pas. Et donc, quelque part, la communauté française, par exemple, dans son enseignement, ne parle pas comme la France de laïcité, elle parle de neutralité. Le problème de la notion de neutralité, c'est qu'elle n'a pas l'air très sexy. Quand on parle de neutralité pour les chiens, c'est qu'on les a castrés. La neutralité, c'est au départ le choix de ni l'un ni l'autre, mais en même temps de tous ensemble. Et la question, moi, sociale, qui m'a toujours taraudé à titre individuel, si je dois parler de ma pratique vraiment personnelle, comme je ne parle au nom de personne si ce n'est de moi, j'ai toujours été mené par cette question qui était comment vivre de la manière la plus juste possible et la plus digne possible avec les institutions et dans le cadre d'une organisation la plus juste possible et la plus digne possible. C'est-à-dire qu'il fasse en sorte que tous les individus, tous ceux qui viennent à moi, soient respectés et se voient leurs droits garantis. Point. Et ça, c'est l'option droit de l'homme, c'est tout individu, quel qu'il soit, dispose de manière inhérente, c'est-à-dire du seul fait qu'il est un individu, de droits fondamentaux, ce sont les droits de l'homme. Je romps une lance directement sur la question de « et les devoirs ». Dans mon optique à moi, qui est une optique sociale et qui est une optique qui court quand même dans la dynamique historique depuis le 19e jusqu'au 20e siècle, etc., mais dans ce sens-là, la dynamique des droits de l'homme, ça n'est pas une dynamique de « faites d'abord vos devoirs et puis on vous donnera des droits », ça c'était la dynamique méritocrate du 19e siècle. La dynamique du 20e siècle, c'est une dynamique qui dit « vous avez, du seul fait que vous êtes un être humain, vous avez des droits, et à partir de ce moment-là, il est évident qu'avoir des droits, ça oblige ». Et moi, plutôt que devoir qui fleure bon son catéchisme, je préfère effectivement la notion d'obligation, qui peut paraître un peu plus rigide que devoir, mais d'obligation parce que ça oblige d'avoir des droits, notamment ceux de respecter, celui de respecter les autres, et de responsabilité, parce que ces obligations, elles arrivent en réponse à l'octroi des droits. Je crois que cette dynamique qui s'est construite notamment par les mouvements sociaux et les mouvements de libération à partir du XXe siècle, c'est une dynamique qui affirme d'abord les droits, mais qui n'élude pas la question des responsabilités et des obligations, mais qui la met en deuxième plan. Ce qui permet évidemment de se rebeller contre une société qui ne respecte pas les droits fondamentaux. On a des devoirs et des obligations qu'à partir du moment où les droits reconnus et garantis par un certain nombre de pactes, déclarations, traités, sont effectivement reconnus, garantis dans la vie sociale de tous les jours. Alors, vous le savez sans doute, en gros, à la grosse louche, je n'ai pas énormément de temps, donc je ne vais pas non plus m'apesantir sur tous les détails, il y a deux modes d'organisation de la vie sociale. Un mode dit français, républicain, universaliste, et un mode dit plutôt anglo-saxon, communautariste. Je vais essayer quand même de les détailler pour voir qu'en fait, aucun des deux n'a 100% d'avantages et 100% d'inconvénients. Mais qu'au bout du compte, il faut quand même bien vivre ensemble, et il faut ou en choisir un, ou en choisir l'autre, ou faire un mix entre les deux et un peu voir dans quelle situation nous on se trouve de nos jours. Alors, le principe de la vision universaliste du vivre ensemble, c'est en gros, chaque individu naît libre et égaux en dignité et en droit, et on doit retrouver effectivement les notions de liberté, d'égalité et de fraternité qu'on retrouve à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le protocole républicain de nos voisins français. Donc, tous égaux. Ce sont des individus qui sont tous égaux et qui constituent la totalité de la République, donc la totalité du monde et du vivre ensemble, de l'ensemble du groupe. Il s'agit bien dans cette optique-là de vivre les uns avec les autres et pas les uns contre les autres, voire les uns sans les autres. C'est tous ensemble, tous égaux. Alors évidemment, le projet est très beau, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de faiblesses humaines, qui fait que c'est bien gentil de croire que quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas comme moi, je vais l'embrasser tout de suite, mais on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord la méfiance, c'est en plus le cas échéant... une forme de méfiance très haineuse dans la mesure où l'autre, c'est celui qui va empiéter sur mes droits le cas échéant, et donc je dois construire des défenses, et ces défenses se construisent souvent par groupe. Et du coup, on méconnaît, alors qu'il y a un côté évidemment éminemment positif de cette non-discrimination et que tout le monde est égal à tout le monde, etc., on méconnaît le fait qu'il y a une forme d'aveuglement. Le tout n'est évidemment pas fait d'individus qui homogénéisent ce tout. Le tout est fait, le tout n'est pas homogène du tout, le tout est totalement hétérogène. Et cette diversité, ben évidemment, cette diversité, cette multiplicité, elle est encore plus présente aujourd'hui dans nos univers sociaux qu'hier. C'est-à-dire, le fantasme du monde monolingue, monocolore, qu'on a peut-être connu dans un village près de Arlon au début du XXe siècle, aujourd'hui, c'est plus possible. L'idée que quand on était de Étal et qu'on allait à Saint-Léger, toujours dans le même coin, et que dès qu'on allait de Étal à Saint-Léger, on était l'étranger, c'est fini. Donc ça, ça ne peut plus jouer. Mais par contre, évidemment, cette diversité, elle va se marquer par aussi la construction d'étapes intermédiaires, de groupes intermédiaires, de collectivités intermédiaires, d'identités collectives intermédiaires, dont il va falloir tenir compte. Parce qu'on se rend compte évidemment que c'est pas possible de traiter tout le monde de manière égale et que donc toujours il y a des gens qui vont se trouver maltraités, socio-économiquement laissés pour compte. Que du coup, en fonction du critère de reconnaissance qu'on se sera donné pour justifier le fait que les autres nous traitent mal, nous sommes socio-économiquement défavorisés, nous sommes dans des banlieues, nous sommes d'une origine belge un peu récente, voire douteuse, etc. Tout ça crée effectivement des groupes de personnes qui vont être amenées à revendiquer des droits. Et généralement, cette revendication de droits à l'intérieur d'un tout homogène ne se fait pas seulement pour ses propres droits, mais se fait aussi contre les autres. Et à l'intérieur même du processus républicain, on se rend compte qu'on retrouve des constructions communautaristes avec des conflits, parce que des groupes se retrouvent à exiger des droits qui sont les leurs et qu'ils devraient et dont ils devraient jouir, mais qu'on ne le reconnaît pas suffisamment. Et que cette construction se fait aussi sur base de la reconstruction d'un ennemi, qui est soit la société, soit un groupe X, qui peut être de type ethnique, qui peut être de type orientation sexuelle, mais de toute manière, la frustration sera toujours rejetée sur un autre groupe, et ça mine évidemment l'organisation du bien-être social. Sachant aussi que le lissage sans discrimination peut conduire à une forme d'aperception du style « tout est homogène et donc il n'y a rien qui peut dépasser ». Donc il y a une forme de massification sociale par le modèle républicain qui fait que toute différenciation ne sera pas bien vue et que dès lors, un certain nombre de composantes identitaires ou de composantes individuelles pourraient apparaître comme sacrifiées à l'aune et à l'autel de l'idéal républicain. Ça, c'est évidemment un modèle qui, globalement, est universaliste. En matière de droits de l'homme, de laïcité politique, ces deux concepts n'ont absolument rien contre un principe républicain. Sauf que le fait du sacrifice culturel, le fait du sacrifice d'une partie de sa propre identité, bien évidemment, et les droits de l'homme et la laïcité politique ne peuvent s'en satisfaire. Donc on est là face à un passage à une moulinette d'un modèle standard qui n'est pas conforme à un idéal ni des droits de l'homme, ni même de la laïcité politique. Et donc ce modèle républicain, qui est celui qui est souvent dans nos cultures d'Europe non anglo-saxonne, le modèle revendiqué, c'est un modèle qui comporte en son sein un certain nombre de risques. Le modèle communautariste, effectivement plutôt anglo-saxon, joue sur la construction intermédiaire d'entités collectives qui permettent de jouer tampon. Et donc l'individu est d'abord inscrit dans la communauté, et c'est en fonction de cette inscription dans la communauté qu'il va pouvoir jouir d'un certain nombre de privilèges, etc. Alors l'organisation générale de la société, du tout ensemble, passe d'abord par l'organisation d'un certain nombre de communautés, et effectivement la garantie que ces communautés pourront jouir globalement, mais dans la totalité, pas à titre individuel, d'éléments d'égalité. Alors, évidemment, l'écueil du sacrifice identitaire, il semble évité, vu qu'on a pu au moins construire une identité intermédiaire et collective. Le seul problème face auquel on se trouve, c'est que faut savoir sur quel type d'identité construire cette communauté. Et je ne vais pas vous faire le discours qui devient d'une banalité aujourd'hui effarante, mais dont on ne tire pas toujours toutes les conséquences, c'est le discours des identités meurtrières d'Amin Maalouf, c'est qu'on est pétri d'une multitude d'identités, et que tout dépend effectivement de quel type d'identité on va choisir pour construire l'ordre social. Vous pouvez avoir des identités de type ethnique, vous pouvez avoir des identités de type national, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, de type culturel, de type cultuel, ce qui n'est pas non plus la même chose. De type orientation sexuelle ou genre, alors, il se fait qu'on a peu construit nos sociétés sur les femmes d'un côté et les hommes de l'autre, quoique, et disons qu'il n'y a pas encore des rues pour femmes et des rues pour hommes, il y a bien certes des occupations pour femmes et des occupations pour hommes dans le construit social, mais pas encore dans le construit géographique, peut-être dans les maisons quand même. Mais donc, le problème, c'est que ce type d'organisation, par essence, est un type d'organisation réducteur. Parce qu'on va choisir une des composantes et pas l'autre. Alors, si on regarde ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, c'est assez intéressant. C'est qu'au départ, l'organisation, par exemple, d'un pays comme l'Angleterre, était basée, comme c'est un C'est un empire, n'est-ce pas? C'est basé sur l'accueil de personnes du monde entier membres de l'empire, donc des Indiens, des Pakistanais, des Australiens, enfin un peu de tout. Et que c'était une organisation type ethnique. Donc une sous-organisation type ethnique. Chaque communauté ethnique s'organisait, etc. Mais alors, ce qu'on avait un peu oublié, c'est que au XXe siècle, il y a quand même une lutte qui a fait florès et qui a quand même porté ses fruits, c'est la lutte antiraciste. Et donc le délit de sale gueule ou de sale nationalité, ça ne pouvait plus le faire. Résultat, on se rend compte qu'aujourd'hui, d'ethnique qu'elle était, l'organisation anglo-saxonne de la vie en Angleterre, c'est une organisation d'abord de type culturel. Et à y regarder de plus près, le R est assez obsolète. C'est une organisation quasi cultuelle aujourd'hui. Avec, du côté anglais, une reprise en main de l'espace social par un certain nombre de religions, la religion musulmane, la religion juive et la religion anglicane en l'occurrence, qui se mettent ensemble pour revendiquer une place hors de la sphère privée. Et je reviendrai sur sphère privée. Vous remarquez qu'en Belgique, on entend arriver des mouvements qui demandent le retour et la fermeture de la croyance dans l'espace de la sphère privée. En Angleterre, c'est l'inverse, mais c'est les mouvements religieux qui le demandent. Donc on est dans cette tension-là qui va être la tension à résoudre. Où est-ce qu'on met le culte? Dans quel espace on va le situer? Alors, c'est clair que ni les droits de l'homme, ni la conception de la laïcité politique ne peuvent imaginer un retour à l'organisation du social via la transcendance, même si toutes les religions se mettent ensemble. Parce que même si toutes les religions se mettent ensemble, c'est imposer à une partie, les non-croyants, un point de vue dans l'organisation du social qui n'est pas partagé par tout le monde. Encore une fois, la laïcité dans sa conception politique est une laïcité qui n'exige pas des gens qu'ils soient non-croyants. C'est une laïcité qui s'accommode tout à fait de la présence de croyants dans l'espace public, même en dehors de la sphère privée. Et donc, la question qui doit se poser, c'est qu'en dehors de cette question-là, de la récupération de l'espace public par les croyances, c'est aussi l'indexation à la croyance. Dans ma conception, je dis tout de suite, je suis non-croyant, ce qui est une forme de croyance pour certains, mais je suis non-croyant, athée, sans aucun problème. Mais en attendant, je ne peux pas imaginer qu'à un moment donné, on m'empêche, si ça me vient, de changer de croyance. Donc la capacité de changer d'identité, la capacité d'être dynamique, de mouvoir, aujourd'hui, dans une société de type communautariste, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est tellement organisé de manière clos et fermée, que, en fait, la mixité est inenvisageable. Et donc, la prise en compte de multiples diversités ou de croisements de frontières est inenvisageable. La possibilité du devenir est inenvisageable. Je vous renvoie à tous les films de Ken Loach, notamment sur les mixités de communautés. C'est édifiant. Et il y a des gens et des devenirs qui sont écrasés par ce type de pratique. Et donc, en dehors de la récupération de l'espace public par la croyance, c'est vraiment aussi la question de la mixité de l'espace public qui est en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on connaît, nous, chez nous? Est-ce qu'on est plutôt universaliste républicain, en dehors du fait qu'on soit une monarchie, ou est-ce qu'on est plutôt communautariste? Ben, on a, en matière de droits fondamentaux, plutôt tendance à dire on est républicain. En oubliant, mais complètement, quelque chose qui fait partie de nos gènes depuis quelque temps, c'est qu'en fait, on est organisé en communauté. C'est-à-dire, on est dans un régime communautaire sur base culturelle. Il y a la communauté flamande, germanophone, française. Et ça, on l'a complètement oublié. C'est comme si c'était un truc de politicien, mais en fait, c'est un mode d'organisation communautaire. À l'intérieur, on vit néanmoins dans un système tout à fait républicain. Mais il ne faut pas oublier cette composante-là. Parce que justement, quand je vous parlais des communautés qui se battent les unes contre les autres parce qu'ils ont l'impression de perdre des droits par rapport à l'autre communauté, on est en plein dans ce type de régime-là. Et donc la Belgique vit dans un système, sinon anglo-saxon, au moins du type à minima communautaire. Deuxièmement, on vit dans une société multiculturelle. La belle affaire. Moi, je ne suis pas sûr qu'on vive dans une société multiculturelle. Oui, ce serait bien si on le faisait. Personnellement, j'ai absolument rien contre. Mais on ne le fait pas. Alors j'ai un gros problème avec ceux qui disent qu'on y est, parce que si c'est leur option, dire qu'on y est déjà, c'est faire abstraction de tout le chemin qui est encore nécessaire pour qu'on y parvienne. Aujourd'hui, moi j'aime bien dire par boutade, pas seulement aujourd'hui d'ailleurs, je le dis souvent, on est dans une société multiculinaire. On peut bouffer de tout partout. Ça oui. Mais est-ce qu'on est une société multiculturelle? Non. Le principe de la société multiculturelle, ce serait de dire, je suis dans un bassin social, j'ai mis la culture machin, la culture machin, la culture machin, j'ai secoué et j'ai une société multiculturelle. Est-ce que c'est ça qu'on vit? Non. Est-ce qu'on est dans une société interculturelle qui signifierait j'ai la société machin, j'ai la société machin et je regarde l'intersection, est-ce que c'est ça qu'on vit? Non. On est dans un système dont on ne peut pas oublier quand même, enfin, qu'on a une culture dominante. Je dirais, cette culture dominante, à aucun moment, elle n'a envie de laisser ses privilèges partir en nouilles parce qu'il y a une société d'à côté qui viendrait lui mordre les choses. Non, évidemment, pas du tout. Cette société avec une culture dominante, par contre, ce qu'il faut faire, c'est la travailler au corps pour qu'elle soit effectivement la plus tolérante et la plus accueillante possible à un certain nombre d'apports extérieurs, pour autant que ces apports extérieurs soient compatibles avec, ouvrez les guillemets, nos valeurs communes. Quand tout va mal, quand les communautés s'engueulent, quand elles se tapent sur la gueule, on vous ressort nos valeurs communes. Mais ces valeurs communes, moi je suis bien en peine de vous les énumérer. Moi j'en ai des valeurs communes. Moi, je sais ce que c'est, mais je ne suis pas sûr que mes valeurs communes soient vos valeurs communes. Et donc, ce qui serait peut-être bien, c'est de se constituer un socle de valeurs communes, de les énumérer une bonne fois pour toutes, et de se dire, OK, à partir de là, on peut faire une société. Et alors, moi, j'ai mon modèle à moi, qui tient compte à la fois du caractère universaliste et du caractère brolo-culturel, appelez-vous le multi, inter, je ne sais pas quoi, mais c'est un peu. Moi, je suis pas un nostalgique des années hippies, mais c'est un peu le flower power. C'est donc, j'ai le cœur de la fleur avec les valeurs communes. Alors, si vous en voulez quelques-unes, il y a la démocratie, je suppose qu'on sera tous d'accord. Les droits de l'homme, ça je vous l'impose, hein, on n'a pas le choix. L'état de droit. La séparation de l'Église et de l'État au sens de laïcité politique, pas au sens de je honnis les religions. Mais simplement la séparation de l'Église et de l'État, la non-discrimination, l'égalité homme-femme. Alors le statisticien dit redondance, hein, parce que qui dit non-discrimination dit aussi égalité homme-femme. Hein. Mais cela va sans dire, et comme vous le savez bien, cela va encore mieux en le disant. Hein. Donc l'égalité homme-femme, toutes ces choses-là, on peut en rajouter d'autres, toutes ces choses-là doivent être dans le cœur et dans le core business, vu qu'on est très managériaux aujourd'hui, dans le core business de notre société. À partir de là, il y a tous les pétales de la fleur. Alors, moi j'aime bien les tournesols parce qu'il y a beaucoup de pétales. Hein. Tous les pétales de la fleur, c'est toutes nos déclinaisons groupales, identitaires, tout ce que vous voulez, mais qui peuvent être de tous ordres, religieux ou pas, orientation sexuelle, nationalité, culinaire, tout. Avec la possibilité, évidemment, de changer, de passer d'un pétale à l'autre, d'en cumuler. Évidemment, plus il y a de pétales, plus on rit, et donc, effectivement, on peut cumuler. Et c'est l'idée, justement, qui me semble fondamentale, c'est qu'en dehors de valeurs qui doivent, effectivement, être des valeurs tout à fait communes, en dehors de ce socle de valeurs communes, la possibilité de la variation, la possibilité de la diversité. J'insiste sur le mot diversité. Parce que c'est une diversité qui doit. Je suis bien éduqué parce que j'ai vu 5 minutes, il fait ça bien, il est très. C'est une diversité qui doit évidemment être une vraie diversité, avec un vrai choix et une vraie liberté du choix. On doit pouvoir apprendre à lire et à décoder toutes les options et faire son choix, pas sur les valeurs communes. Encore une fois, ça c'est le contrat social. Mais pour le reste, ça nous regarde. Ça, c'est une vraie diversité. Mais c'est un apprentissage culturel, la vraie diversité. Ça veut dire effectivement qu'il va falloir partager l'espace dans un ensemble où il y aura beaucoup plus de différences qu'on ne le pense, alors qu'elles sont déjà présentes, ces différences-là. Que chacun devrait être reconnu comme acteur de ses choix, comme sujet de ses droits, et comme habilité à prendre la parole, et ça c'est la chose la plus difficile à faire aujourd'hui, c'est arrêter de parler à la place des autres. De telle sorte que quand quelqu'un vous aborde, ben, vous puissiez savoir qui il est vraiment, et pas simplement à quelle communauté unitaire il appartient. En d'autres termes, si une femme musulmane s'approche de vous dans un contexte de soins, ce n'est pas seulement une femme musulmane. C'est plein de choix. Des choix dont on espère qu'ils sont libres et des choix qu'on doit libérer le plus possible si ce n'est pas le cas. Et je terminerai par le fait que c'est cette diversité et cette liberté qui nous permet effectivement de garder une forme de capacité de résistance par rapport à des contraintes, et notamment des contraintes de groupe, et qui nous permettent de rester debout et de garder une forme de dignité qui est en fait la clé de voûte de l'énonciation des droits fondamentaux. Je vous ai dit que je vous parlerai de l'espace. Aujourd'hui, il y a un combat entre sphère privée, sphère publique, ou sphère privée, espace public. Et on confond un peu l'espace public et la sphère publique. Il ne faut pas. Pour les tenants du discours, il faut renvoyer la croyance, voire même l'appartenance à quelque communauté que ce soit, à la sphère privée. C'est évidemment facile, ça veut dire effectivement que la religion n'a pas de place dans l'espace public. Mais à cela, je réponds, c'est quoi l'espace public? C'est le lieu du maelstrom, c'est le lieu du bordel d'idées, c'est le lieu du débat infini. On ne débat pas juste dans son ménage, derrière la porte fermée de son domicile. Le débat doit être sur la place publique. Il y a un besoin, une nécessité de publicité des idées, des choses, des débats et des décisions. Eh bien, les croyances ont à pouvoir s'exprimer aussi dans l'espace public. Encore une fois, sous le régime de la laïcité politique, c'est-à-dire sans velléité d'hégémonie ou de confiscation de pouvoir. Mais c'est bien l'espace où le débat doit avoir lieu, c'est l'espace public. Si vous enfermez une composante du débat hors de l'espace public, mais vous le renfermez dans la sphère privée, vous perdez des tas de choses. Puis ceux qui plaident pour ce genre de choses oublient évidemment dans quel pays on vit, ou quand vous allez sur le site du ministère de la Justice, il y a quand même écrit Stéphane de Clercq, CDNV. On est quand même encore un peu organisé de manière pilarisée. Il se fait que les gens, même quand ils sont dans un parti politique coloré, travaillent pour le bien public, normalement. Mais du coup, qu'est-ce qui doit être préservé? Ce n'est pas l'espace public qui doit être préservé. L'espace public doit être organisé avec le respect de la diversité et l'absence des discriminations. Ce qui doit être préservé, c'est la sphère publique, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la détention d'une parcelle de l'autorité publique. C'est le pouvoir. Et à l'intérieur de ça se posent énormément de questions, parce qu'après, il faut encore définir la sphère publique. Alors évidemment, c'est la justice, c'est le gouvernement qui parle au nom de tout le monde, c'est tout ce qui doit parler au nom de tout le monde, c'est le service public. Et puis évidemment, à partir de là, se posent les questions de croyance, de cacher ce voile que je ne saurais voir, etc., etc. Mais lue dans ce paradigme-là, elle se pose avec une autre acuité. Théoriquement, je pourrais admettre que les détenteurs d'une parcelle de l'autorité publique soient neutres, et donc ne soient pas visiblement indexés à tel ou tel groupe, telle ou telle croyance. Mais je suis un peu pervers, et je me dis, et pourquoi? Parce que si je revendique une réelle diversité, et si je crois qu'en allant à tel service public fédéral, et que je vois quelqu'un qui, pour prendre le cas qui est toujours cité, même si ce serait peut-être bon de changer de paradigme parce que c'est un peu réducteur, une personne qui est voilée derrière un guichet, qu'est-ce qui va me faire croire que je serai moins bien servi? Parce que c'est de ça qu'il est question, le service public, il doit nous servir. Qu'est-ce qui va me faire croire qu'il est moins bien servi? Est-ce qu'une femme va absolument exiger que ce soit une femme qui la serve sous prétexte qu'un homme la regardera bizarrement? Non. Ce qu'il faut éviter au service public et dans la sphère publique, c'est le prosélytisme. Mais qu'est-ce qui me dit que tel insigne est automatiquement du prosélytisme? Rien. Et si je me le dis que tel insigne est absolument du prosélytisme, est-ce que c'est la personne qui est en face de moi qui doit changer? Ou est-ce que c'est moi qui ai des croyances bizarres et des croyances qui m'empêchent de vivre avec l'autre? Moi, je trouve que c'est des questions qui méritent débat, plus que des anathèmes qu'on entend dans la presse entre l'un qui est pour, l'autre qui est contre, l'autre, etc. C'est une question qui est socialement cruciale et qui ne se laisse plus réduire aujourd'hui dans du monocolore. Ça ne veut pas dire que ça doit être gris, les principes doivent être tranchés. Mais ça veut dire aussi que ça impose, de la même manière que l'accueil des soins, ça impose de la créativité et de l'imagination. Si on veut vivre avec une société qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, une société d'une diversité énorme. Sinon, effectivement, on retourne dans une société de l'uniforme, du monocolore, du monolingue, que nous avons quand même passablement quitté. Je vous remercie.